c'est son flamant signe. Digne de la plus minable pièce de boulevard, je l'entends, je me lève et je vais au placard, et laissant au divan l'infidèle. Et me baratin, qu'avant qu'il nous prétende de le mettre au foie, je suis le gardien du placard. La mort dans la penderie, celui dont on se marre, celui dont on se rit. Et je promets à tous ceux qui portent au corps et de moi que bien peut être comme eux.
Au 7e siècle, deuxième demi-heure de l'émission, regard sur le cinéma. On est en plein dialogue sur ce qu'on pourrait appeler au sens large cinéma itinérant, et c'est l'occasion de relever le défi que je soulevais en début d'émission, c'est-à-dire faire le grand écart entre le cinéma des premiers temps, la venue du cinéma, faire une traversée en fait de l'histoire du cinéma à travers la notion d'itinérance, entre autres, et des projections itinérantes. John Blouin avec moi pour en parler.
Donc on était rendu à la voix justement. Parce que les projectionnistes, contrairement aux projections qu'on a connues de nos jours, de moins en moins, ça c'est un truc qu'on pourra reparler, les projectionnistes ont pas de voix, sont cachés. Un projectionniste, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas voir. Il doit être totalement transparent. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se retrouve sur l'écran, quand il fait une erreur, donc il ne faut pas qu'il se retrouve sur l'écran. Ça me fait penser une fois qu'un projectionniste s'est retrouvé sur l'écran d'une façon magistrale.
Ah oui.
Et ça va vous donner un exemple. C'est j'écoutais un film de Bresson. Puis, je ne me rappelle pas du nom du film, mais à la fin, un film incroyable, bien entendu, à la fin, il y a le personnage principal se met à débouler dans un noir et blanc sublime, débouler tranquillement, puis après un film d'une intensité dramatique incroyable, elle déboule tranquillement, puis elle va tomber dans l'eau pour faire un peu son ophélie. Puis, ça s'en allait vers la fin du film, après des images incroyables en noir et blanc. Donc, elle tombe dans l'eau. Puis, projectionniste qui avait passé là, avait fait, pour se donner une marque, avait fait 4 grands X rouges sur les derniers frames. Donc, après avoir eu une décharge en noir et blanc pendant tout le film, un des projectionnistes, son indication, avait mis ces croix rouges-là, puis ça l'a fait un effet d'électrochoc. Puis c'est là que le projectionniste, pour moi, qui a sans doute fait ça malencontreusement, a eu une voix sur l'écran. On revient à la voix.
Juste indiquer une chose, je pense que d'ailleurs on a déjà eu une conversation à propos de cet événement-là de projection incroyable. On a l'impression vraiment que le projectionniste commente la fin du film, là,
où
Bresson élimine carrément sa protagoniste principale. En fait, ce que tu décris, c'est la fin du film Mouchette.
C'est exactement ça.
Un film de 66.
Puis c'est drôle, je l'avais vu avant. Sur DVD chez moi, puis là je l'ai vu, puis avec ça c'est devenu un film emblématique pour moi par rapport à la projection. Donc on revient à nos projectionnistes itinérants. C'était pas simplement des gens qui déambulaient, donc il y avait la mobilité, mais c'est des gens qui faisaient partie de l'espace public parce qu'ils étaient mandatés pour avoir des débats, pour avoir des discussions. Les films servaient à faire des discussions avec le public. Par exemple, ils projetaient un film sur la guerre, parce que au début, les projectionnistes et l'ONF, il y avait une emphase sur la propagande pour la guerre. Donc, il projetait un film, puis ensuite, il parlait du film avec la communauté. On peut faire un genre de lien avec les maintenant, chaque film a son blog, là. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, mais qui révèle quelquefois des choses intéressantes. Donc, il y avait ce côté-là de débat public. Ça me fait penser qu'il y a des cinéastes, dont Fernand Dansereau, une fois... Il m'a parlé d'un de ses films qu'il a fait justement pour ces genres de débats-là. C'est un film qui était fait en 10 sections, interchangeables. Il y a des sections qu'on ne pouvait pas mettre. Tout dépendant où allait le débat. Par exemple, les gens regardaient une section, ensuite on ouvrait, puis avec le projectionniste, qui était aussi animateur, il parlait. Puis là, justement, on va se rendre avec cette section-là. Vous me faites penser que, donc, le cinéma était déjà modelé par la parole des gens, par les discussions avec les projectionnistes qui étaient là pour ouvrir le débat. Donc, il y avait déjà une interactivité en ce sens-là.
Donc, ça veut dire que, dépendamment, en fait, de l'invité ou des intervenants dans le cadre de la projection de ce film-là de Dansereau qui était assez engagé du point de vue de la production cinématographique à l'ONF à partir de la fin des années 60, c'est un peu cette période-là où il y a un effort politique communautaire qui est relancé, qui se renouvelle par rapport à cet exemple qu'on donnait, là, surtout peut-être dans les années 40 ou 50 où les projections étaient itinérantes. Dansereau essaie de relancer ça à travers l'idée du débat, ce qui est peut-être différent déjà du simple commentaire et expérience communautaire qu'on devait retrouver dans les premiers temps des projections itinérantes de l'ONF. Donc, le film comme instrument politique, puis comme manière de valoriser l'échange communautaire, fait en sorte finalement que la projection, l'événement de la projection est déterminante, est déterminant.
Oui, puis...
Je m'en marque comme ça.
En parenthèse.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces projectionnistes-là pouvaient révéler les images, donner un sens aux images... qui étaient différents d'un endroit à l'autre. Comme, par exemple, il pouvait... c'est un des projectionnistes itinérants qui parle. Son nom, c'est Théo, si je ne m'abuse. Puis, il disait, souvent, il y avait un bateau, par exemple, qui coulait. Mm. Puis, bon, les gens, il y avait des documentaires sur tout, mais quand il y avait des genres de films d'action, qu'on pourrait dire, de l'époque de l'ONF, c'était, par exemple, une bombe qui... nucléaire. Puis là, il y a un endroit qui dit « Ah, c'était bon, cette bombe-là, était vraiment bonne. » Puis là, avec le temps, il revenait, puis il y avait toujours un film avec la bombe nucléaire, parce que tout le monde était hanté par ça, puis les gens voulaient que tout le monde soit hanté par ça.
C'était la peur, la politique de peur de la guerre froide.
Oui, exactement.
Il trouvait sa place aussi dans les projections itinérantes.
Puis, il y a des gens qui disaient... on est tanné de l'avoir, cette maudite bombe-là. C'est tout le temps la même bombe. Vous n'avez pas d'autres bombes. Donc, il pouvait retourner ce discours-là différemment. Donc, la présence des gens au travers d'un film servait à ça. J'aimerais faire un petit passage rapidement. Ben, juste avant, je voudrais juste terminer là-dessus. L'ONF, une fois que ça a été fini, ce déambulement-là, on pourrait en parler encore très, très longtemps. Mais ensuite, ça a été les films qui se sont déplacés. Ce sera peut-être un sujet pour une autre conversation qu'on pourrait avoir. C'est justement cette errance-là des bobines qui passaient d'un endroit à l'autre, puis dont le corps était inscrit par des marques, par des traces que les projectionnistes, par les marques aussi de la machine qui, quand les films sont projetés, ils s'usent. Puis lorsqu'un film s'use, ça veut dire qu'il a servi. Chose qu'on ne retrouve plus de nos jours. Donc, on pourrait y aller là-dessus. Je dirais que le but de ces projectionnistes itinérants-là, c'était de se rendre jusqu'aux gens, d'être en mesure de prendre contact avec les gens. Puis, je pense que l'ONF tente ce tournant-là à nouveau avec le lien avec Internet, par exemple. Il y a déjà eu la ciné-robotech endroit... magnifique et mythique où j'ai eu la chance de travailler, où est-ce qu'on peut s'asseoir puis voir des milliers de films, mais maintenant on peut voir ça sur Internet. Donc, encore une fois, le cinéma se rend directement chez les gens au lieu que ce soit les gens qui se rendent au cinéma.
Tout au long finalement de l'histoire de l'Office national du film, il y a eu une préoccupation à rejoindre la communauté. Évidemment, c'est un organisme qui dépend, c'est un organisme fédéral, donc qui doit avoir une mission communautaire inscrite à même ses productions, mais aussi inscrite dans la façon de diffuser les œuvres. Puis c'est vrai que la ciné-robothèque était aussi presque un passage obligé de l'ONF pour essayer de repenser la manière d'aller rejoindre le public, parce qu'on sait que la ciné-robothèque est rapidement devenue désuète, parce qu'au moment où elle a commencé à être fonctionnelle, en fait, peu de temps après, le laser faisait son apparition, surtout le DVD en particulier, depuis près de 15 ans, en fait. Et soudain, en peu de temps, la ciné-robothèque s'est retrouvée un peu à rebours de l'état de diffusion du cinéma, qui aujourd'hui, évidemment, est pléthorique sur Internet. Donc, il y a une accélération, j'ai l'impression, dans les dernières années, pour trouver le moyen d'être en phase vraiment avec la forme de diffusion préconisée aujourd'hui pour rejoindre plus de gens, qui est le web.
Puis, parlant de déambulement, parlant d'errance, parlant aussi de l'ONF, puisqu'on est les pieds dedans, l'ONF, maintenant, ils ont une application, par exemple, iPhone. Mm-hmm. Puis ils ne me payent pas pour dire ça.
On ne travaille pas pour eux.
Pas du tout.
Personne ne le dit.
Puis il y a beaucoup d'endroits, les films maintenant déambulent avec les gens grâce à Internet. Donc les gens peuvent voir les films n'importe où qu'ils veulent. Eux-mêmes portent leur propre projecteur, portent leur propre écran avec eux. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir noter ça, mais on en reviendra.
Il faut revenir là-dessus, le phénomène du spectateur itinérant, qui est peut-être une donne essentielle pour décrypter le mode de diffusion et les habitudes spectatorielles de ce début du 21e siècle.
Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour parler d'un petit truc?
Oui, si tu veux, je te dirais qu'on prendrait simplement une légère pause musicale. Puis on se relance tout de suite après.
Avec plaisir.
Alors, de retour au 7e ciel, on vient d'entendre un extrait d'une pièce qui s'appelle Keeping Up de Archer Russell, une figure obscure de la scène disco minimaliste new-yorkaise, c'est pas une blague, de la fin des années 70, début 80, quelqu'un qui était très en avance en fait sur son temps, de telle sorte qu'aujourd'hui il est découvert, mais pendant longtemps c'était simplement une figure très marginale, vivant dans le dénuement, parce que c'était aussi quelqu'un d'assez mystique, d'où son côté minimaliste, tempéré par la flamboyance disco de certaines de ses pièces, mais c'est pas le cas de celle-ci qui va davantage vers la frange mystique et introspective de son travail. Donc, on enchaîne peut-être encore un peu avant le dernier bloc de l'émission autour de cinéma, itinérance, partance, etc. avec Jean Blouin.
Bon, dernière chose avant que j'aille moi-même. c'est quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé en URSS. C'est les ciné-trains. C'est là que le cinéma de l'errance, je trouve que ça prend son plein potentiel. Mm. C'est ciné-train qu'on dit kinopoids. Non, j'en dirai plus jamais ça. C'est Medvedkin qui a inventé cette idée-là. Ou que c'est un train qui part de ville en ville, de village encore, qui errent un peu partout en URSS. Puis, ces trains-là étaient équipés pour qu'on soit en mesure de filmer, de monter, de projeter les films. dans un même endroit. Donc, c'était des studios mobiles de cinéma. Bien entendu, au début, l'idée, personne ne voulait donner de l'argent pour ça, mais le département, le bureau de la propagande ont trouvé l'idée très, très bonne. Donc, Medvedkin, avec son équipe, dont Vertov a fait quelques fois partie, il allait dans un village ou dans des milieux ouvriers souvent pour aller filmer les gens. Donc, il filmait. Ensuite, il faisait un film, puis il montrait les films à ces gens-là pour qu'eux-mêmes se voient faire leur truc, faire leur métier. Puis, le but, c'était souvent pour montrer les mauvais côtés. Pour qu'ils puissent s'améliorer, pour que justement le pays, la nation devienne meilleur. Ce qui a amené des problèmes parce que les gens, premièrement, ils n'étaient pas habitués de voir des images aussi près d'eux. Parce qu'ils étaient habitués de voir du cinéma plus de propagande avec des fictions, avec des chants rythmés, des trucs pour...
Plus spectaculaires, en fait.
Spectaculaires, emblématiques de la nation.
Oui. Donc, on suppose que le cinéma de propagande, évidemment, était formaté aussi de manière à rejoindre le plus de gens possible, comme tout film de propagande qui soit... parfois financé par l'industrie privée ou par le public. Il y a des films de propagande qui circulent sur nos écrans et qui sont faits avec des capitaux privés, évidemment.
Puis donc, ces films-là, donc les gens n'étaient pas habitués. Puis là, de se voir tout d'un coup là-dedans, ça posait une problématique entre la réalité et la fiction. Et puis, d'un côté, les gens se sont rendus compte que les films étaient plutôt négatifs, parce que ça montrait le dysfonctionnement de la bureaucratie, l'absentéisme. Donc, ça l'enlevait l'image parfaite de la nation. C'est une des raisons pour lesquelles ces films-là ont été retirés. On en retrouve presque plus de ces films-là.
Tu veux dire que la plupart des films qui ont été produits dans le contexte du ciné-train, là, qui était donc, si je ne m'abuse, dans la première moitié des années 30, est-ce que tu as... Au début
du cinéma sonore? Ça a été terminé dans les années 1927, dans ces années-là, de 26 à 30 environ.
OK, donc... Même avant le cinéma sonore. Donc, on peut dire que cette production-là était forcément imparfaite, alors qu'elle devait agir comme un miroir auprès de la population qui était filmée puis qui regardait le film. Forcément, comme lorsqu'on se regarde dans un miroir, on commence à critiquer un peu le reflet qu'on y voit, là, où on est un peu contraint avec ce qu'on est. Hein. C'est le propre des reflets, si on n'est pas trop narcissique, de nous ramener à... Barmak, ça peut être la même chose, en fait, de nous ramener à une sorte de d'autocritique. Là. Donc, j'imagine que le ciné-train presque un programme de doctrine marxiste là, lié à l'autocritique, faire un travail sur soi des individus qui composent la société pour mieux recomposer le tissu social. Donc, c'est extrêmement radical comme proposition. Et on suppose aussi que, compte tenu que les films étaient tournés avec les moyens d'un studio itinérant, la technique ne correspondait pas à celui d'un cinéma de propagande plus normatif. Donc, forcément, il pouvait aussi y avoir une déception compte tenu des épisodes des spectateurs qui avaient eu la chance de voir des films de propagande.
Par exemple, dans un voyage de 294 jours, il pouvait se faire jusqu'à 72 films qui ont été produits puis qui ont été montrés.
Mm-hmm. Mais hallucinant.
Par exemple,
film par jour, pratiquement.
Oui, pratiquement. Puis les équipes étaient... c'était quand même des assez grandes équipes. Puis je vais finir avec une dernière chose, c'est que y a un des films... Puis un des seuls films qu'on peut trouver à peu près facilement, c'est « Comment vis-tu, camarade mineur? » C'est un film qu'on peut retrouver dans le tombeau d'Alexandre, le magnifique tombeau d'Alexandre de Chris Marker.
Oui,
allez
oui.
voir ça.
Oui, oui, tombeau d'Alexandre, donc en hommage justement à Medvedkin, l'initiateur du Cinétrain. Ben merci John Blouin d'avoir pu partager un peu avec nous le cinéma, ce qu'il en est du cinéma itinérant sous toutes ses formes, d'aujourd'hui à hier et encore une fois les retours. Donc on se balade dans le temps au cours de cette émission. Évidemment, tu es toujours le bienvenu, John. Pour discuter avec nous quand ça te chante. Le tombeau d'Alexandre de Chris Marker, c'est un film assez que vous ne trouverez pas à la DVTech près de chez vous, mais si vous faites quelques efforts et vous permettez de vous ouvrir un compte avec Amazon.fr, entre autres, vous pourrez y avoir accès.
La 12e édition du Mois Multi, du 3 février au 2 mars 2011. 30 jours de festivités pour faire l'expérience des arts multidisciplinaires et électroniques. Des spectacles, des installations, des cabarets audio et du vidéo live. Plus de 125 artistes du Japon, de la Norvège, de la Suisse, de la France et du Canada. Billets en vente à Méduse et sur le réseau Billettech. Le Mois Multi, du 3 février au 2 mars. Une présentation des productions Recto Verso. Informations et programmation complète, moimulti.org.
CKRL a des espaces à bureaux à louer. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin de l'Âge, Jean-Philippe Deschênes, 88-603-5353.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, toujours confondus.
À ne pas manquer en février, le 5, la pop franco de Jean-François Lessard. Le 12, la formation folk indie Around Joshua. Le 19, The Jack Ross Project. Et le 26, le country folk rock de la formation Tire le Coyote.
Le Bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Venez développer votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes Cassée du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
Là, tu dis, c'était gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
Thank you.
j'arrive à la chaîne, l'émission commence, on m'annonce et puis la présentatrice me regarde et dit « Quelle joie de vous avoir ici !» Et là, elle fait venir un ring plein de boue pour que je m'ébroue, me baigne et me batte. Et moi, je perds la raison et je deviens tout fou et je veux lui montrer que je suis fort au catch pour de vrai. J'ai voulu lui montrer que j'étais un prince du ring, un prophète de l'écran. Et quand le monde fait tomber, Mitch le vengeur allume la spicule, un prince de rire, un prophète de corps. Mitch le vengeur se venge des hommes. Et quand le monde fait tomber, Mitch le vengeur allume la spicule, un prince de rire, un prophète de corps. Mitch le vengeur se venge des hommes. Et quand le monde fait tomber, Mitch le vengeur allume.
Oui, dernière demi-heure de l'émission Septième Ciel, regard sur le cinéma. On va parler un peu dans la dernière demi-heure de cinéma contemporain, en faisant un peu moins la split entre les débuts et l'avenir du cinéma. Je vais me concentrer d'abord sur un cinéaste dont on présente un film au Musée de la Civilisation jeudi prochain à 19h30. Le film s'appelle Flandre. C'était le quatrième long métrage du réalisateur français Bruno Dumont. Bruno Dumont, j'ai envie de vous en parler un peu en faisant le portrait de son parcours assez singulier dans le cinéma français. Environ 5 films sur un peu moins de 15 ans ou plus ou moins 15 ans. Son premier long métrage s'appelait La vie de Jésus, donc sorti au milieu des années 90. Le deuxième est un coup de force en fait, qui s'appelle L'Humanité. J'aimerais en parler quelques instants parce qu'il est assez emblématique de son style. C'est peut-être son œuvre la plus radical ou qui a détonné le plus dans la production du cinéma contemporain de la fin des golden 90s, on peut dire. Du moins, était un peu un chef de file d'un groupe de cinéastes qui avait été défini un peu hâtivement dans les colonnes du monde diplomatique à l'époque comme étant la nouvelle frange de la cinématographie Eurotrash, on pourrait dire, donc des films qui se font à rebrousse-poil, qui malmènent le public, sont extrêmement crus. Dans cet article du Monde diplomatique, qui est assez emblématique parce qu'il cristallisait certaines tendances thématiques du cinéma français, en particulier, mais aussi du cinéma européen, assez violente, des représentations assez angoissantes. Bon, pourtant, les cinéastes mis ensemble avaient des univers très singuliers. On a du mal aujourd'hui à imaginer qu'il ait pu, pendant un certain temps, être présenté comme étant partie prenante d'un groupe. Je pense à des cinéastes comme Claire Denis, aussi bien Claire Denis que Catherine Breillat, que Dumont, ou encore Philippe Grandrieu, 4 cinéastes qui ont souvent présenté au cœur de leurs films des scènes de crime de manière extrêmement crue, par exemple dans le cas de Claire Denis, le film J'ai pas sommeil, où il y a l'histoire autour d'une représentation multiple qui touche autant la thématique de l'immigration en France des ressortissants du bloc de l'Est que celui d'un certain Paris populaire ou de banlieue éprouvant des difficultés matérielles. Bon, ça c'est un thème plus classique. À travers ça, il y avait aussi le récit de meurtres en série perpétrés par des malotrus, si on veut. Et ces meurtres-là étaient présentés de manière extrêmement crue. Ça peut être qualifié de trash. En même temps, on voit bien comment ce type de cinéma-là est aussi en dialogue avec une certaine littérature assez violente, assez crue, qui existe depuis longtemps, qui trouve même peut-être même que Denis puisait son inspiration d'une certaine manière dans le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc, il y a toute cette représentation assez crue, troublante, de la violence que l'on retrouvait aussi dans le premier film de Philippe Grandrieu qui s'appelle Sombre, où il y avait au cœur du film la mise en scène de viol crapuleux. Bon, etc. Catherine Breillat, c'était davantage autour de la représentation crue, sans faire de la sexualité, qui était aussi quand même une représentation, donc aussi une esthétisation qui flirtait avec la pornographie, mais qui n'en était surtout pas, parce que c'était du cinéma d'auteur, parce qu'il y avait un travail d'acteur aussi derrière ça. Donc, une réflexion cinématographique et esthétique très aiguisée. Pour ce qui concerne du monde dans l'humanité, il y a le récit d'un personnage qui est un peu à côté de ses pompes, en fait, qui joue le rôle d'un inspecteur de police. Son prénom, c'est Pharaon. Déjà, on est dans un registre qui s'éloigne un peu de la réalité courante. En nommant un personnage principal du nom de Pharaon, on crée un peu de nouvelles conventions qui nous mettent à distance d'une réalité triviale de province, parce que c'est quand même un décor provincial auquel nous convie Dumont dans la première partie de son film. Peu à peu, il déconstruit ça, entre autres parce que son casting est absolument audacieux, radical, et c'est une des forces de sa production jusqu'à maintenant, d'ailleurs, de créer une relation, lui, en tant que metteur en scène avec ses acteurs, qui suppose une nouvelle manière d'apporter une présence au cinéma, une nouvelle manière de composer avec la notion de jeu au cinéma ou du non-jeu. Donc, dans la plupart de ces films, ce sont des acteurs non professionnels, et en particulier dans l'humanité, il s'agit d'un acteur qui semble à côté de sa pompe à cause de la définition de son personnage, inspecteur maladroit et peu crédible, peu convaincant professionnellement, mais aussi littéralement, on peut dire que l'acteur qui a été choisi par Dumont semble un peu attardé. Donc il y avait cette audace, cette violence de faire incarner une figure qui doit incarner la loi, faire jouer un acteur une sorte d'incarnation de la loi que devrait être, entre guillemets, l'inspecteur de police, tout en montrant qu'il est grandement déficient. Donc, ne pouvant pas assumer ce rôle-là, c'est une manière de déranger aussi le spectateur, de le mettre à mal et de le faire sortir des conventions habituelles du genre. Et à l'époque, il avait remporté le prix de la mise en scène à Cannes pour ce film, ce qui avait créé un scandale, etc., comme Cannes en a le secret. Plus près de nous, il y a le film Flandre de Bruno Dumont, qui s'inscrit dans le cycle cinéma en partance, plus près de nous dans le temps, parce que Flandre a été réalisé, je crois, en 2006. Flandre, c'est un film où Dumont, après avoir fait un long métrage aux États-Unis, renoue avec le paysage du nord français, qui est son paysage de prédilection, même si dans son dernier film, une bonne partie se déroule à Paris. Une bonne partie du film se déroule à Paris. Donc, Flandre, c'est le récit d'un aller-retour entre la région du nord de la France et un hypothétique pays situé certainement dans le monde arabe, qui pourrait être l'Irak, qui pourrait être l'Afghanistan aussi, mais si on se fie au décor, à la lumière, c'est davantage l'Irak qui est dessiné à gros traits. Et donc, on fait un récit comme ça d'aller-retour entre le nord de la France et la violence, évidemment, supposée en temps de guerre, et une guerre très contemporaine. Et cette violence-là fait, la manière dont elle est représentée dans le film de Dumont fait toute la force de son propos. C'est sans doute une des représentations de la guerre les plus fortes, à mon goût, en tout cas, ouais, à ma sensibilité, que j'ai vue depuis Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, si je veux bien forcer le trait un peu, mais à peine. Dumont occupe une place vraiment singulière dans le paysage cinématographique actuel, et ça passe entre autres par une capacité à rendre compte de la violence sans qu'on ait nécessairement l'impression qu'il y a un filtre esthétique, et un filtre dans le travail de mise en scène, dans le montage, faisant en sorte que la guerre est forcément édulcorée, elle est forcément une représentation. Au contraire, à force d'affiner son style, à force de choisir des acteurs qui sont éloignés de ce qu'on qualifie de réalisme dans le cinéma courant, il en vient à faire surgir la guerre dans toute sa violence, juste parce qu'il a fait un pas de deux par rapport aux normes de la mise en scène, et que ce pas de deux impliquait des partis pris radicaux.
l'origine, on n'était pas des sauvages. À l'origine, on n'habitait pas la cage. Au premier signe, on libérait les otages. À l'origine, on faisait pas l'étalage. De nos racines, on n'avait pas d'héritage. À 10 centimes, on n'était pas si volage. Dieu, 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 que c'est loin. À l'origine, on n'était pas des esclaves. À l'origine, on quittait pas son enclave. D'origine, la vie n'était qu'une seule phrase. Sibylline, on mettait pas les pleins gaz. Les mandarines avaient un goût de betterave. Citadine, on attendait dans les caves. Mieux, mieux, mieux que rien. À l'origine, on n'avait pas des prothèses. À l'origine, disait moins de fantaises. À l'origine, on avait moins de facettes. De temps d'usine et pas besoin de prophètes. À l'origine, les poules étaient des nuggets. Et pas d'usine et les poupées des puppets. Dieu, 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 que c'est loin. À l'origine, on n'avait pas de pétards, de carabines, mais les cheveux en pétard. Dans le dressing, on cherchait pas de cadavres. À l'origine, on n'était pas si macabre. À l'origine, il n'y avait pas les images. Les speakerines faisaient encore des massages. Mieux, 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 c'est mieux que rien. Je ne sais pas si nous étions les pires. Si déjà nous rêvions d'en finir. À l'origine tout n'était qu'un mystère. Pas de fadeur, d'une petite fada naguère. À l'origine on passait pas le message. À sa voisine on faisait pas de chantage. À la cantine il n'y avait pas de potage. De carabine, de messager de passage. À Colombine il va y avoir un carnage. En haut des cimes il n'y avait que les nuages. Dieu, Dieu, Dieu que c'est loin. À l'origine, on n'était pas des occases. À l'origine, on faisait pas dans l'occase. À l'origine, on faisait dans le détail. À l'origine, on n'était pas du bétail. À l'origine, on faisait pas des entailles. Longiligne, on n'ouvrait pas les entrailles. Lieu, lieu, lieu commun. À l'origine, on n'était pas des minables. À l'origine, on piratait pas le câble. À l'origine, il y avait moins de vocables. Entre les lignes, on était beaucoup moins stable. À l'origine, il n'y avait pas le mot sale. On s'y résigne, on n'était pas si maussade. Dieu, 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 que c'est loin. À l'origine, on avait peur de l'anthrax. De la famille de Karl Marx. À l'origine, on n'avait pas des Rolex. Ou des Longines, on avait des Solex. À l'origine, tout n'était pas si complexe. À l'origine, tout n'était qu'un prétexte. Crois-moi, trois fois rien. Je ne sais pas si nous étions les mêmes. Comment ça va finir? À l'origine, il n'y avait qu'un soupir. Et pas d'éclair sur ta poupée de cire. Sur ta poupée de cire, poupée de cire. Sur ta poupée de cire.
Oui, on va la faire avec vous. Vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, dernier 10 minutes avant l'émission rétrogardiste. Je vous soulignez au passage qu'on vient d'entendre la chanson à l'origine de Benjamin Biolay, une chanson qui est tirée de son avant, pas son avant-dernier album, il a fait deux albums depuis, donc réalisé au milieu des années 2000, il y a un concert en fait DVD qui vient de sortir de la dernière tournée de Biolay où vous avez une version encore plus décapante de cette chanson, qui est une sorte de... Qui résonne comme une sorte de cri par rapport aux angoisses de l'époque. Donc, j'aimerais dire quelques mots, en fait, profiter des dernières minutes pour dire quelques mots à propos du film The Fighter de David O. Russell, qui est certainement un des films les plus stimulants à être sorti autour de la sphère, des collines californiennes ces dernières années, il faut quand même pas exagérer. Donc, David O. Russell, qui est-il? C'est un réalisateur qui a commencé son travail au milieu des années 90, associé au cinéma indépendant américain. Son premier long métrage, Spanking the Money, était une comédie noire sur l'inceste qui était déjà assez risquée. Il a laissé ses marques en voulant souligner la part d'audace de son travail, et ça a été récompensé du prix du public à Sundance en 94. Son deuxième film, qui était vraiment, vraiment stimulant, je trouve, à l'époque, qui détenait complètement dans le paysage des comédies du milieu des années 90, Flirting with Disaster, avec l'inénarrable Ben Stiller, Patricia Arquette et Taylor Henney. C'était une sorte de road movie américain où le personnage principal, interprété par Stiller, part à la recherche, en fait, de ses parents biologiques. Et toute la dimension novatrice du film consistait à revoir un des canons de la comédie américaine, qui est le screwball comédie, en fait, dont j'ai déjà parlé ici il y a quelques émissions. Screwball étant une comédie essentiellement fondée sur le dialogue et sur le caractère nerveux de ses personnages jusqu'à l'hystérie, et donc les dialogues doivent être dans ce cas-ci énoncés le plus rapidement possible, et c'est davantage l'énergie qui compte dans la voix des personnages et dans leurs paroles que le sens de ce qu'ils disent. Donc, il y a comme ça une comédie nerveuse qui passe par le langage, mais qui est aussi dépassée par l'énergie que les acteurs y mettent pour transmettre les répliques. Et c'est un type de cinéma qui trouve sa source à la fin des années 30 avec quelques films de Warlocks, entre autres, dont Bringing Up Baby avec Cary Grant et Katharine Hepburn, ainsi qu'un film réalisé deux ans plus tard, Is Girl Friday, toujours avec Cary Grant. Donc, l'idée de David Russell, au milieu des années 90 encore, était de reprendre, en fait, le principe du screwball très associé à la côte est américaine. Les screwball comédies se déroulent souvent à Boston. Dans Bringing Up Baby, le personnage principal est un employé de musée. Donc, il y avait l'idée de sortir un peu le screwball de ses gonds culturels, un peu Nouvelle-Angleterre, un peu néo-européen, pour déplacer le film vers l'ouest. Et donc c'est vraiment un road movie qui prend la carte des États-Unis comme terrain de jeu pour sa comédie. Le film suivant est un film qui s'appelle Three Kings, qui était aussi extrêmement audacieux. C'est peut-être le plus grand succès de Russell jusqu'à présent, où il s'agissait de mettre sous le ton de la comédie, il s'agissait de se moquer de la guerre en Irak, la première, la guerre du Golfe, dans les années 90, qui s'était terminée un peu quelques années auparavant. Donc, essayer de se moquer de ce moment-là de l'histoire, guerrière américaine, en présentant des personnages interprétés par Clooney, entre autres, George Clooney et Mark Wahlberg, qui sont des militaires américains, des GI complètement avides, des pillards, en fait, qui essaient de trouver de l'or qui serait caché quelque part dans le fond du Koweït. Donc, c'était une comédie assez cynique, pour l'époque, et qu'il est encore aujourd'hui. On imagine ce genre de comédie déplacée dans le contexte de la Deuxième Guerre en Irak, et on suppose l'audace et la provocation que ça engendrerait. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Il y avait quand même une légèreté dans le cinéma américain des années 90 qui est un peu retombée, évidemment, depuis le début des années 2000. Et donc, The Fighter, c'est un film que Russell réalise après 6 ans de hiatus, je dirais, dans sa production, en fait 6 ans où il ne fait pas de long métrage. Le film précédent s'appelait I Love Huckabees. Et là, il quitte vraiment le registre de la comédie pour faire un film qui était en premier lieu dédié au réalisateur Darren Aronofsky, qui a préféré faire Black Swan. Donc, on supposait un film qui était un peu dans la lignée de Wrestler avec Mickey Rourke, où l'essentiel du film consistait à montrer finalement la renaissance d'un personnage ou d'une figure de héros qui était plus ou moins une épave avant que le film se fasse. Bon, ça c'était le défi de Wrestler, de remettre en valeur une étoile déchue comme Mickey Rourke. The Fighter, c'est plutôt de manière plus documentaire, plus littéral, montrer les hauts et les bas d'un boxeur. Et Russell le fait de manière extrêmement nerveuse au niveau de la mise en scène, en particulier dans le premier trois quarts d'heure, à mon sens, qui est très fort et qui fait en sorte que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ce premier trois quarts d'heure-là, où davantage que l'idée de présenter un récit avec une ligne directrice où on suppose qu'à un moment donné, le boxeur en question, le héros du film interprété par Wahlberg, va refaire son combat sur un ring où il montrera à tous son talent et sa suprématie. On s'intéresse assez peu à ça dans le premier trois quarts d'heure. C'est plutôt un portrait sociologique d'un milieu très défavorisé de l'Amérique profonde avec ces gens qui veulent s'en sortir coûte que coûte. Et Wahlberg, le personnage qu'incarne Wahlberg là-dedans, est tout à fait en phase avec ce type de héros. Et c'est un type de héros, évidemment, qui nous surprend pas tellement par rapport aux héros caractéristiques du cinéma américain. Cependant, la manière dont sont présentés les attitudes, les lieux, les lieux, l'aspect documentaire, en fait, du film pour montrer l'Amérique profonde le rend extrêmement précieux parce qu'on est très très loin de la reconstitution. Russell a choisi des lieux qui existent, a choisi aussi pour entourer Wahlberg et Christian Bell des acteurs qui n'en sont pas nécessairement, et là on rejoint du monde mais par une autre porte, là, c'est-à-dire choisir de faire un pas de deux, notamment dans le casting, avec ce qui est qualifié de norme dans le cinéma courant, donc où tous les acteurs, même s'ils doivent incarner un type de milieu populaire qu'on voit rarement dans le cinéma américain, doivent être quand même des acteurs professionnels, accrédités, etc. Donc au contraire, la dimension documentaire va jusque dans le choix du casting pour ce film de Russell. Et à ce titre-là, je dirais que je vous invite vivement à aller le voir. Pour le reste, je dois déjà vous laisser, en fait. C'était une émission qui a dû être dégoupillée un peu plus rapidement qu'à l'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. On aura encore l'occasion, je crois, de faire le grand écart entre cinéma contemporain, histoire du cinéma, cinéma expérimental, sans doute. On parlera un peu de cinéma expérimental la semaine prochaine. C'est mon programme. Et je vous dis à très bientôt, donc.